Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. La carte blanche de la semaine est donnée à la radio Pays de Guéret pour la présentation de Marasme, un label associatif, indépendant, éclectique et anticonformiste, vouant une passion pour le vinyle au pressage limité. Côté découverte, la scène belge est à l'honneur sur votre radio Ferrarock avec Aurélie Muller, aka Vilain Tigre, qui compose une bande originale rêvée d'un film qui n'existe pas vraiment, et Futuro Pelo pour la sortie de Sketches of Loss. Ancien membre de Sporto Cantes, Benjamin Sportes œuvre depuis une dizaine d'années sous l'alias de Futuro Pelo. Avec Sketches of Loss, il signe un condensé de son cheminement musical marqué par le deuil. Écoute et interview par Natacha de Radio Ballade à Esperanza.
Qui se trouve sur un nouvel album du projet Futuro Pelo, un projet de Benjamin Sportes, et le nom de l'album c'est Sketches of Loss. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Sketches of Loss est très lié au deuil et à la résilience. À quel moment as-tu senti que cet album devrait absolument exister?
Ça a été très progressif, en fait. C'était empirique. En fait, moi, en 2024, j'ai perdu un petit garçon qui est né, qui a vécu 6 jours et puis qui est mort dans nos bras. Puis, donc, il y a eu le choc-là, cette traversée-là, où, dans la capacité de penser à la musique, de penser à tout ce qui était le passé, en fait, tout d'un coup, voilà. Il fallait traverser ce moment-là heure par heure, minute par minute, jour par jour, sans vraiment savoir quelle était la suite, en fait. Voilà. Donc, ça a été 8-9 mois comme ça de traverser de ça, de réapprendre un peu à dialoguer avec le monde qui vous entoure, qui, lui, s'est pas arrêté. Vous vous êtes arrêté brutalement et le monde ne s'arrête pas. Hein, donc, faut que... Voilà.
Ouais,
et puis, on m'a proposé d'intégrer un lieu à Bruxelles qui s'appelle Le Bon, qui est une pépinière d'artistes dans un vieux bâtiment brutaliste de 6000 mètres carrés dans lequel chacun a fabriqué ses studios. Et moi, j'ai eu l'opportunité de fabriquer mon studio. Et je me suis dit, bah, je vais recommencer par ça. En fait, je vais construire mon outil de travail, quitte même à le louer si jamais je me sens plus de recomposer ou quoi que ce soit. Mais il fallait que je passe par quelque chose de qui me traverse, et puis qu'il soit quelque chose de manuel, sans mental, sans rien.
Oui.
Donc j'ai reconstruit ce studio, et à partir de ce moment-là, quand je l'ai terminé, j'ai repris des instruments que je n'avais pas utilisés depuis une dizaine d'années, parce que même 15 ans, parce que là, moi je suis parti avec Sportocantès et Futuro Pelo, des parties très électroniques et beaucoup de sampling et tout ça.
Oui, voilà,
Et j'ai repris.
effectivement, je voulais demander parce que j'ai lu
Ouais.
que tu as arrêté de jouer de la guitare pendant 10 ans au moins. Et est-ce que tu as fait pas du tout la musique ou voilà, t'avais plutôt un style électronique qui a pas forcément demandé un instrument comme la guitare, c'est ça?
Oui, c'est pas parce que j'utilisais pas de guitare que j'ai arrêté la musique. En fait, moi, grâce au sample, en fait, pendant des années, j'ai fait des albums avec Pédo, avec mon projet de chanson Sportes et tout ça. J'ai fait des disques avec guitare et tout ça. Mais en fait, un jour, au moment du sampling et des sampleurs et tout ça, j'ai commencé à vraiment trouver une voix là-dedans et une expression musicale qui m'intéressait vraiment pour créer des espaces musicaux, des décors musicaux, quelque chose de très cinématographique. Et donc, à partir de, je sais pas, des années 98, 99, j'ai commencé à utiliser le sampler, le sampling, et ça m'a jamais quitté. Ça m'a nourri pendant 20 ans, quoi. Et sauf que là, en fait, je crois que j'étais arrivé à ce moment de césure de la mort de mon petit, a fait que tout d'un coup, j'ai eu peut-être très certainement eu besoin de revenir aux basiques, quoi. Toutes les choses qui, moi, m'ont amené à la musique, à la scène, c'était le rock'n'roll, et c'était Elvis Presley, c'était les Stooges, les Clash, et tout ça. Donc, je sais pas, ça, il y a eu cette espèce de besoin de revenir là-dedans, et c'est pour ça que j'ai ressorti une guitare un peu inconsciemment, et
T'as
j'ai tout l'album
ramené
comme.
alors à retoucher les cordes,
Voilà.
ton petit-fils. Alors, je voulais savoir aussi, parce que tu es sur scène depuis 1983 quand même, c'est plus long
Ouais.
que moi, je suis sur cette planète. Et qu'est-ce qui a changé de manière la plus radicale dans la scène musicale depuis 1983 pour toi?
J'ai l'impression qu'en fait ça s'est démocratisé la musique dans le sens où au départ c'était vraiment, enfin moi je me rappelle quand j'ai voulu faire de la musique, père m'a toujours dit non mais n'importe quoi, tu vas faire quoi, enfin tu vas jamais vivre de ça, tu vas
Oui,
jamais, ou alors si tu
classique,
fais de la musique,
le
oui
grand
si tu fais de
classique
la,
des parents.
voilà, si tu fais de la musique faut aller au conservatoire apprendre les notes, enfin faut devenir Mozart ou alors tu fais pas de musique, quoi. Moi ce qui m'intéressait c'était l'énergie du rock'n'roll, en fait c'est là-dedans que je me suis vu exciter, et ça ils pouvaient pas l'entendre. Donc et là-dedans je trouvais que beaucoup de gens qui étaient outsiders ou bord cadre ou des gens qui étaient un peu en dehors de la société se retrouvaient là-dedans. Moi, très vite, j'ai intégré aussi un collectif qui s'appelait les Bars Rock à Paris dans les années 80. C'était un tout petit association qui faisait tourner des groupes dans un lieu dans le 20e arrondissement à Paris, un lieu qui n'était pas du tout à la mode. Et on se retrouvait tous là, et il y avait là les Vampass, le début de la Mano Negra, des Négresses Vertes, des Perruquiers Noirs, enfin toute cette veine-là du rock alternatif français et parisien se retrouvait là. Et on était vraiment des gens bord quatre, quoi, des gens qui se reconnaissaient là-dedans et c'est là-dedans qu'ils puisaient leur énergie et leur vérité, et il y avait des gens de toutes sortes de milieux, mais c'était des gens qui étaient habités par ça. Et j'ai l'impression que depuis, en fait, ces années-là, alors je veux pas passer pour un vieux con, évidemment,
Non.
59 ans, je vais en avoir 60, et on pense toujours qu'on avait la vérité, nous, à l'époque, et que maintenant, ça se délite. Alors, il y a très certainement de ça dans ce que je rapporte, mais je pense aussi qu'en tant qu'amateur de musique, amoureux de la musique, et l'ayant vécu, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui ont accès aux instruments et aux applications digitales pour faire de la musique, donc beaucoup plus de gens qui font de la musique, et que c'est moins un tabou de faire de la musique, même dans les familles bourgeoises, je dirais. Et du coup, il y a beaucoup de tout ce pont-là de la société aussi qui a eu accès à la musique et qui s'est approprié les labels, les systèmes de production, les artistes, et ça a créé toute une espèce de vague comme ça de gens qui, bah, finalement, c'était devenu un métier comme un autre, quoi. Et c'est là-dedans où je pense que les gens qui n'ont que ça comme moyen d'expression ou moyen d'exister sont un peu effacés là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont été un peu dilués dans tout un coup cette masse de gens qui se sont appropriés, en fait, ce médium-là.
ton centre de vie de Paris à Bruxelles. Justement, ouais. Quelle différence vois-tu entre la scène musicale de Bruxelles et Paris?
Mais justement, en fait, moi, je me suis senti totalement asséché à Paris. C'est-à-dire que, créativement parlant, j'arrivais plus, en fait, à... Je trouvais que tout était très réseauté, très codifié, qu'il fallait connaître un tel et un tel pour avoir accès à telle ou telle salle, ou telle production, ou tel studio pour enregistrer ou mixer. Que tout était compliqué, en fait. Et je me suis dit, en fait, bon, le fait qu'on m'ait aussi éjecté de l'appartement dans lequel je vivais depuis 25 ans a aidé à prendre une décision comme ça. Mais j'ai dit à ma compagne et ma fille, j'ai dit, faut qu'on bouge, en fait. Faut partir. Et je me suis dit que Bruxelles était encore une zone un peu grise, qui était très un carrefour international aussi, où à travers cette ville-là, on pouvait aussi avoir accès à l'Allemagne, à la Hollande, à l'Angleterre, peut-être plus facilement qu'en France et à Paris, qui est très franco-français, en fait. Qui est très, très, très. Il y a le quota de chansons françaises, de musique française à la radio, donc qui est super pour les artistes en France. Mais du coup, ça cloisonne beaucoup, en fait, les choses. Et il y a tout un système de réseautage français et parisien qui fait que si on ne fait pas partie de ça, on n'existe pas. Voilà. Et je trouve qu'à Bruxelles, et d'ailleurs, le lieu que j'ai intégré à Anderlecht, le Bunk, qui est un lieu que la ville a donné pour 1,75€ du mètre carré à cette association, c'est-à-dire qui est inespéré. C'est-à-dire que moi, je paye 1 400€ pour 20 mètres carrés par an.
Ah oui, c'est un bon prix.
Où est-ce qu'on trouve ça? Enfin, c'est-à-dire qu'on peut encore habiter.
Je ne crois pas à Paris.
Voilà. On peut créer, on peut continuer à travailler sans avoir pistolet sur la tempe en vous disant chaque mois comment tu payes ton loyer et ton studio, justement, et avoir une vie décente. Et il y a encore des endroits où c'est possible.
Alors, Bruxelles aime ses artistes mieux que Paris.
Ouais.
Je voulais savoir, ton style est un mélange sauvage entre Nick Cave et l'urgence brute de Gun Club, croisant l'énergie de Stooges avec électro-punk de Jamie T et le flow incisif de Genesis Owusu. Quels sont aujourd'hui tes trois groupes ou artistes most beloved, ceux que tu écoutes et admires le plus en ce moment?
C'est compliqué parce que c'est des périodes. Hein. Il y a certains mois où on écoute en boucle un artiste et puis après on passe sur un autre pendant trois mois.
Oui, je sais bien.
Je sais pas, moi je reviens beaucoup à des vieux trucs aussi. En effet, Nick Cave, c'est quelqu'un que j'ai pas mal suivi, surtout, enfin, moi j'ai lu son livre d'interview qu'il a sorti, qu'il a donné à ce journaliste irlandais, et qui décrit toute sa carrière, et puis comment il a traversé la mort de son fils qui est tombé de cette falaise, et moi je l'ai lu un an avant la mort de mon fils, et tout d'un coup il y a eu une résonance là-dedans, alors qui était incroyable, et quand je l'ai vu en concert, ça parlait tellement à mon expérience et à tout ça, donc il y a des choses comme ça qui sont des empreintes émotionnelles comme ça avec certains artistes qui sont assez indélébiles, parce qu'elles font écho à votre vie, elles font écho à ce que vous vivez. Il y a les Sleaford Mods aussi qui pour moi sont la preuve qu'on peut encore faire de la musique passer la cinquantaine et que ça peut être encore actuel et ça peut encore attirer des jeunes générations, et ça c'est génial parce que pour des artistes qui continuent à faire de la musique, il n'y a pas de jeunisme en fait, c'est-à-dire qu'on se dit bah non, jusqu'au bout on peut le faire quoi. J'ai aussi vu Patti Smith que j'avais jamais vu sur scène. Je l'avais jamais vu et je l'ai vu pour la première fois il y a 4 ans à Bruxelles et j'étais assis par terre tellement elle m'a bluffé quoi. Genre c'était j'ai vu là une espèce de prêtresse indienne Sioux qui était totalement habitée. Je me suis dit, ah ouais d'accord, elle a 76 ans et elle peut encore comme ça drainer cette énergie. Voilà. Il y a une autre artiste qui s'appelle Angelica Liddell, mais qui n'est pas du tout musicienne, mais qui est une artiste performeuse dans le théâtre et une très très grande écrivaine, qui fait des spectacles très très radicaux et qui pour moi sont aussi l'équivalent d'un... Je sais pas, je dirais en fait, ça génère la même énergie que pouvait générer Iggy Pop avec les Stooges à l'époque, ou les New York Dolls, ou les Clash, ou les Sex Pistols. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une urgence ancrée dans une vérité de vie tellement forte, et en même temps avec une écriture littéraire qui est tellement puissante aussi que on peut penser à Shakespeare, on peut penser à tout ça. Donc c'est tous ces artistes-là, moi, qui me font vibrer. C'est-à-dire c'est des gens qui vous parlent de la vie, de ce qu'elle a de dur, de ce qu'elle a de belle, de ce qu'elle a de vibrante, et que ça passe par le théâtre, ça passe par la danse, ça passe par le rock'n'roll, ça passe par la musique, c'est peu importe en fait. En fait, c'est surtout des artistes de scène, en fait, des artistes qui, à travers la scène et à travers le corps, font passer un message. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a toujours porté dans la musique en fait.
Et pour revenir à ton nouvel album, est-ce que tu veux me raconter un peu le processus de création de l'album et comment écris-tu généralement tes textes et combien de temps s'est écroulé entre le premier jour, le moment où tu as décidé de faire cet album, et la fin des enregistrements?
Mais en fait, ça a été un processus assez rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fini de construire le studio, que j'ai branché mes instruments, que j'ai commencé à rejouer jouer. D'abord, je faisais tourner des boucles de batterie sur lesquelles je jouais de la basse, qui n'est pas du tout mon instrument, encore une fois. Mais j'ai commencé à trouver une énergie là-dedans. Et puis là-dedans, je rajoutais des guitares. Et puis j'écrivais des textes au fur et à mesure où j'allais prendre des bouts de textes que j'avais écrits par-ci, par-là, que j'essayais de coller dedans, je sais pas. Et puis en fait, des choses sont venues de façon très empirique. Je posais un mot qui en amenait un autre, et puis tout d'un coup, de tout ce que je traversais. En plus de ça, j'ai moi, en plein milieu de l'enregistrement de cet album-là, ma mère m'a appelé pour me dire qu'on avait découvert mon père mort dans son appartement. Donc c'était en fait ça a été encore un élément en plus, qui a été très, très déstabilisant, et j'étais pratiquement sur les deux tiers de l'enregistrement de l'album. Et donc c'était encore un événement qui a tout ébranlé, mais qui est venu nourrir d'autant plus l'aspect créatif de ce que j'amenais, quoi. Donc d'une certaine façon, j'ai solidifié avec la mort de mon père une écriture et une direction artistique qui s'est encore plus ciselée avec cet événement-là, qui est un événement assez violent, parce que voilà, on l'a découvert dans des situations assez dramatiques. Mais et donc le morceau Got to Lose sont des paroles directement inspirées de cet événement-là. Donc c'est un des derniers morceaux que j'ai écrit, qui est directement inspiré de la mort de mon père. Et donc tout ça s'est fait dans une espèce d'urgence, sans y réfléchir. Je faisais des diagrammes de guitare comme ça, des patterns comme ça, que après je découpais, je sélectionnais les meilleures parties. Mais ça s'est fait assez rapidement en fait, et assez instinctivement, pas du tout de réflexion. Ça passait vraiment par le corps et par le fait de pouvoir redonner vie à la guitare, parce que la guitare aussi c'est très physique, les expressions très sensorielles. On a la main mise dessus, c'est-à-dire que tout est très très tactile, on peut changer une note en deux secondes, on peut tout de suite moduler, donner un ton plus grave, plus aigu, plus, je sais pas, il y avait quelque chose de très physique aussi là-dedans. Donc en l'espace de 8 mois, j'ai fait l'album, quoi. J'ai fini le studio en février 2025, et je crois qu'en septembre, qu'on bouclait mon dernier morceau, quoi.
Oui, c'est assez vite. Ouais. Oui, t'as construit un très bon album, en tout cas. Voilà, Benjamin, je te remercie beaucoup. Et on va se quitter avec le dernier morceau, Stromboli. Si je me trompe pas, c'était le premier single, un extrait de cet album.
Ouais, exactement, qui est sorti il y a un mois et demi. Ouais.
Ok, merci beaucoup, Benjamin.
Merci à vous.
Ciao.
Au revoir. Au revoir.
La suite de ce magazine dédié aux découvertes musicales est une traversée sonore dans un film sans fin, celui qu'on se fait dans nos têtes ou qui se crée à l'écoute de cette bande originale du film imaginaire d'Aurélie Müller. Écoute et interview par Yann de Canal B à Rennes.
L'émission Dig Dig Diggers, le magazine hebdomadaire des radios de la Ferrarock. On va parler pendant quelques instants avec Aurélie Müller. Bonjour Aurélie.
Bonjour Yann. Bonjour à tous et à toutes.
De cette bande originale d'un film imaginaire, musique de Vilain Tigre, mais je pense que Vilain Tigre c'est Aurélie Müller en fait, sorti chez Cléo Records le 6 mai. Une ambiance ouatée, propice aux rêves. On doline doucement de la tête au début de l'album, il y a des sons aquatiques qui vont apparaître, un saxophone un poil cheesy peut-être, mais qui nous rappelle le solo du Playground Love de Air pour le Virgin Suicides de Sofia Coppola. Allez, on plonge dans cette bande originale d'un film imaginaire, je le répète. Alors depuis plus de 20 ans, tu as pu travailler avec de nombreux groupes et tu as participé à des projets musicaux. On pense à Melon Gallia, Soyun Caballo, Blondie Brownie, Trésor. Tu as aussi collaboré avec Bright Eyes, Will Oldham, Kate Stables, du beau monde. Depuis combien de temps avais-tu en tête cette BO imaginaire?
Alors je pense qu'elle est en moi depuis toute petite, parce que je suis quelqu'un qui a été baigné par des univers très contrastés. Je pense que c'est Chantal Goya et les Berruriers Noirs qui m'ont mené à la musique et à ce que je fais actuellement. Donc c'est ce grand écart entre le monde imaginaire et la dureté du monde réel qui m'amène à proposer par les sons un voyage en soi dans une réalité qui, somme toute, est tout aussi vraie que le réel, je pense. J'ai commencé la musique pas si jeune, j'ai commencé vers 13-14 ans dans le but de faire des concerts de rock et d'avoir une guitare électrique qui fait de la disto, de l'overdrive et beaucoup de bruit. Et petit à petit, je me suis plutôt dirigée vers procurer des sensations agréables et essayer d'emmener les gens dans cet esprit, de se faire du bien pour être mieux. J'ai fait des études de montage dans une école de cinéma en Belgique, l'IAD, l'Institut des arts de diffusion. J'ai fait des études de script montage, donc ça c'est mon diplôme. Et j'ai commencé à travailler pour les Frères Dardenne. J'ai commencé, mon premier boulot c'était assistant montage son de Rosetta pour aller à Cannes. C'est eux qui m'ont emmené dans l'univers du montage son. Et des sons réels. Le travail que je faisais pour eux était assez particulier parce que il y a absolument pas de post-synchro. Donc il n'y a pas de son réenregistré après le tournage dans Rosetta et dans les films des Frères Dardenne. Donc tous les sons utilisés sont des sons seuls qui ont été pris au moment du tournage et qui sont resynchronisés pour coller aux images. Et dans ce travail que je faisais pour Rosetta, il a été question justement d'enlever aussi des éléments qui pouvaient paraître, qui pouvaient sembler être de la post-synchro, qui pouvaient ressembler à de l'ajout, de fiction. Ce travail très précis, m'a donné envie de mêler de la réalité à de la musique, musique qui est ma grande, grande, grande passion et qui est le monde dans lequel je préfère déambuler plus que l'image.
On écoute depuis le début de cette discussion avec Aurélie Muller, on a écouté en tout cas tout à l'heure un extrait du titre Retour, Accès, Rebond, un des morceaux chantés de l'album, un album très instrumental tout de même, mais qui a quand même beaucoup de parties chantées. Alors tu parlais du travail de montage son avec les frères Dardel, c'est sans doute ça qui t'a inspiré aussi pour l'enchaînement des morceaux et l'habillage sonore qui font penser à de véritables séquences de films. Il y a des ambiances de field recording d'ailleurs.
Je les ai fait principalement à Marseille. J'ai travaillé pas mal avec la réalisatrice Manon Garry, qui était avec moi aux études en cinéma et qui habite à Marseille. Et j'ai pu bénéficier de son logement pendant pas mal de temps, ce qui m'a permis d'enregistrer des sons, de partir avec mon enregistreur et d'enregistrer des sons qui, moi, me font voyager. Et pour moi, un album, c'est aussi ce qui se passe entre les morceaux et comment on passe de l'un à l'autre. C'est très important pour moi de ne pas décrocher, comme dans un film, qui est une sorte de narration et qu'on puisse être emmené vers la plage suivante.
Alors les plages musicales et puis pas seulement les plages où on entend les vagues un petit peu loin. En tout cas, on entend des sons aquatiques beaucoup sur cet album. J'ai envie de présenter un peu la pochette où on te voit toi de dos. Tu portes ce t-shirt orné d'un tigre. Alors pas si vilain que ça, selon moi, mais bon. Et on te voit casque audio sur les oreilles et face à toi un coucher de soleil qu'on pourrait imaginer au Vietnam. Mais en vérité, cette photo, elle a été prise où? À Bruxelles, à Omaha, à Marseille, à Genève?
Alors, c'est réellement une photo d'un coucher de soleil de Malmousque. Et le tigre sur la veste, c'est un tigre fait par un artiste qui s'appelle Bente. Ce tigre, pour moi, c'est un peu mon Hobbes de Calvin et Hobbes, à savoir, vilain tigre, c'est la part plus imaginaire et plus ludique d'Aurélie Muller. C'est se permettre de faire que le réel devient vivant, à Malmousque ou ailleurs.
On va écouter un morceau qui va nous emmener dans des trains, le titre Deep Night. Avant ça, tout de même, est-ce que tu peux, Aurélie, nous donner une histoire de ce film qui n'existe pas? Est-ce que toi, tu l'as en tête, cette histoire-là?
Alors, j'ai pas mal de fragments de cette histoire et c'est ce que je développe aussi en live pour présenter l'album. Donc, j'organise des ciné-concerts dans des salles de cinéma. J'y présente un fragment de mon film imaginaire qui est une grande déambulation, mais qui se passe toujours bien. Je pense que le morceau Deep Night est peut-être la partie la plus intrigante de ce film imaginaire, mais ça va pas plus loin. Il y aura pas d'autres surprises, il y aura jamais de drame. Il s'agit de chercher, de se laisser aller, de chercher quelque chose. C'est une quête. Voilà, mais c'est ma quête et la mienne, elle me concerne et puis la vôtre, elle m'intéresse.
Vous entendiez à l'instant le titre Deep Night, extrait de cette bande originale du film imaginaire d'Aurélie Müller, avec qui on parle aujourd'hui dans Dig Dig Diggers. La musique est de Vilain Tigre. Vilain Tigre, en fait, c'est Aurélie Müller, mais pas toute seule, parce qu'il y a quelques musiciens qui t'accompagnent. On peut noter les vents de Jérôme Bensoussan, on peut entendre saxophone, clarinette, trompette, à la basse Daniel Offerman de Girls in Hawaii, et puis avec qui tu as travaillé dans Trésor. Les batteries sont de Boris Grandenberger. Il n'y a pas que des batteries, il y a des boîtes à rythme aussi légères, et puis un mixage aux petits oignons de Vincent Poujol. Tu as préféré ne pas le faire toute seule, alors que tu aurais pu le faire, ce mixage.
Je travaille vraiment jamais toute seule. J'ai toujours pensé qu'il y a plus dans plusieurs têtes. Ici, c'est mon projet solo. En général, je travaille toujours dans des duos ou dans des groupes. Ce projet-ci, Vilain Tigre, c'est mon projet solo, mais je pense que c'est le projet finalement qui réunit le plus de collaborateurs et de collaboratrices, parce que il y a eu beaucoup d'interactions, même de réflexions avec plein de gens. Donc les noms que tu cites là sont les participants à l'enregistrement, mais il y a énormément de personnes qui ont participé à cet album sur le fond, sur la forme, sur la réflexion, sur le questionnement justement de la place de l'imaginaire dans nos réalités. J'aurais pu tout faire toute seule, mais je vois rarement l'intérêt de faire les choses toute seule.
Tu as dit, je voulais faire cette BO pour convaincre David Lynch que j'étais sa future compositrice attitrée. J'ai loupé le coche. Eh oui, David Lynch n'est plus, il ne te demandera donc pas de BO, mais peut-être que Sofia Coppola pourra le faire pour un prochain film, ou Céline Sciamma. Est-ce que tu as des réalisateurs et lettristes en tête avec lesquels tu vas travailler, ou finalement ça se fera si ça se fait, mais tu vas pas aller le provoquer plus que ça?
Et je vais travailler avec une jeune réalisatrice bruxelloise pour son court-métrage. Mais principalement, globalement, je rêve de faire ça, mais j'ai un peu peur aussi, j'avoue. J'ai un peu peur de me retrouver... Enfin, si David Lynch m'avait contacté, je pense que j'aurais été tellement fan que peut-être j'aurais perdu tout talent ou toute réflexion autour de son propos. Il faut quand même bien avouer ça. Miranda July, j'adorerais travailler avec elle, pour elle, mais de façon plus concrète. Là, ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler avec tout le monde, à savoir, je voudrais vraiment que les gens entrent dans un film, dans leur film imaginaire avec cette bande originale, et c'est ça mon graal actuel. Je suis pas influencée principalement par les musiques de films, mais plutôt par des groupes. Il y a vraiment énormément de groupes. Mais franchement, je dirais que c'est de Chantal Goya au Béruriers Noirs. Hein. Ça brasse aussi large.
Quelque part entre Chantal Goya et les Béruriers Noirs, il y a l'album Nino et Radia de Nino Ferrer et sa compagne en 1974. Et puis sur cet album, il y a le morceau Looking for You, qui est un monstre de pop hein, langoureuse au groove sinueux, hypnotique, avec des claviers, des basses bien 70s, mais toujours intemporel. Toi, tu as décidé de la reprendre sur l'album et tu inverses les rôles, en fait. La voix féminine est plus en avant, contrairement à la version originale. Pourquoi tu l'as repris, cette chanson-là?
Alors, la véritable raison, c'est que c'était pendant les confinements, là, et que j'ai découvert cet album à ce moment-là. L'album sur lequel figure le Sud, d'ailleurs, qui était d'abord en anglais. J'ai découvert ce morceau, j'ai flashé sur ce morceau. Et comme j'avais énormément de temps, je me suis dit, tiens, allons-y, on va le reprendre. Et ce que j'aime dans ma version, alors je préfère évidemment celle de Nino et Radia, évidemment, mais dans ma version, ce que j'aime, c'est qu'il s'agit plus d'une quête, justement, de quelque chose que de quelqu'un, que d'en être. Et je voulais rendre ça sur cet album justement et sur cette bande originale d'un film imaginaire justement, la recherche de soi, la recherche d'une intimité, la recherche d'un ailleurs. La version originale est vraiment fantastique. Il y a ce que j'appelle un solo de moto dedans. J'ai pas repris cette partie-là parce qu'elle est tellement incroyable. Je vous invite vraiment à aller écouter Looking for You.
Mais sur la bande originale du film imaginaire d'Aurélie Muller, il n'y a pas de solo de moto peut-être, mais il y a des solos de train, des solos de bateau, des solos de cours d'eau, beaucoup de ces ambiances hein, que j'ai décrites tout à l'heure. Tu es en ce moment en résidence justement pour donner la version en ciné-concert de l'album. Ça va ressembler à quoi ?
Ça va ressembler à quelque chose qu'il faut venir voir. Ça va ressembler à entre 45 minutes et une heure d'immersion dans justement des sons réels agréables et des musiques et des propositions de texte, des propositions vocales, des propositions musicales, toujours tournées vers quelque chose d'agréable avec du suspense.
Il y a des paroles tout de même très très impressionnistes, je trouve. C'est des mots comme ça. Je pense notamment à cette chanson Le Port où tu parles du temps, des gens, des moments. C'est comme ça, des suites de mots, un petit peu l'écriture automatique, j'ai l'impression. Beaucoup d'instrumentaux. Est-ce que finalement, c'est ça l'histoire, c'est qu'on se raconte son film et que les mots sont là pour être un instrument, une mélodie?
Alors moi, dans mes intentions, il y a toujours, c'est toujours très précis. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir vers où les gens vont aller eux. Donc j'aime ne pas expliquer les démarches des textes, mais ils sont toujours très travaillés et je connais leur histoire très très bien. J'opère un brouillage de pistes volontaires pour que les gens puissent aller vraiment dans leur histoire. Je me rappelle d'un des premiers morceaux que j'ai écrit il y a longtemps, qui concernait quelque chose de très prosaïque. Enfin, c'était l'attente d'un homme, hein, enfin, un truc assez classique, bateau, quoi. Et puis, une amie m'a dit « Oh, j'adore vraiment ce morceau qui parle du décès de ton proche. » Et c'était pas du tout mon intention, mais par contre, c'est l'endroit où elle est allée. Et j'aime que les endroits se déplacent et que chaque personne puisse se raconter son histoire. Le morceau dont tu parles, il parle du temps des gens. En fait, la clé de ce morceau se trouve dans le titre. Voilà, je dépose ça là pour ceux qui voudront aller chercher la clé du morceau.
Vous pourrez voyager en écoutant la bande originale du film imaginaire d'Aurélie Muller. C'est une musique de Vilain Tigre, alias Aurélie et tous ceux et celles qui l'ont accompagné. C'est sorti sur Cléo Records le 6 mai dernier. Merci Aurélie de nous avoir parlé de l'album. On va terminer avec ce qui est sans doute le générique de fin de cette BO imaginaire, puisqu'il s'appelle Bye. Et c'est toujours la légèreté qui prime, je trouve, dans cet album. Léger comme un nuage, je trouve.
C'est beau ça, merci.
Merci beaucoup et longue vie à Vilain Tigre.
C'est vraiment un plaisir d'être sur les radios de la Ferra Rock. Je trouve que c'est l'endroit parfait pour cet album. C'est vraiment très cool.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Dig Dig Diggers des radios de la Ferrarock. Après la présentation des deux albums découvertes de la semaine, passons à la carte blanche donnée à la radio Pays de Guéret pour la présentation du label Marasme, basé en Creuse, mais à l'écoute d'artistes partout dans le monde. C'est le résultat d'un melting point entre culture sound system, hardcore, breadcore, indus et d'une démarche artisanale et collective.
Alors moi je suis Guillaume, je m'occupe du label Marasme, ça fait 25 ans maintenant, parce que c'est né en mars 2001. On a 44 sorties sur label Marasme, avec des compilations, des disques où il y a eu, il y a une idée quand même de rassemblement de plein de styles différents, et plein d'artistes différents. Et puis en 2018, on a lancé le sous-label Electrodub, où là on est parti plutôt dans un truc où on voulait du dub oriental ou du dub cumbia, des choses un peu marginales en fait, avec des liens avec des artistes un peu partout, surtout en Amérique latine. Dans ma vie professionnelle, j'ai été appelé à aller en Amérique latine pour travailler sur une filière de café et d'artisanat, et rencontrer des gens là-bas, et rencontrer des musiciens, et rencontrer toute une culture que je connaissais pas avant. Et puis ça m'a donné des idées pour donner une orientation au label. Après, label Marasme, c'est une logique particulière où tout le monde va envoyer des morceaux sur un thème ou sur quelque chose. Là, c'était vraiment à part. Donc, Elecho, en espagnol, ça veut dire fougère. Donc, fougère, sauvage, ça semblait être une petite voix sympathique pour aller explorer d'autres choses. Et il s'avère que il y a des artistes qui ont commencé à émerger à ce moment-là, comme Abou Hama, qui lui fait une musique orientale vraiment très particulière. Et puis ça a collé et on a trouvé un public en fait. Puisque la question principale, c'est est-ce qu'il y a un public pour les explorations qu'on a envie de faire? Est-ce que on arrive à toucher les gens avec ça? Et il y a des artistes qui émergent, c'est ça qui est impressionnant. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle vague d'artistes avec des visions hyper différentes de la musique. Et c'est pour ça que ça tient depuis 25 ans, c'est que ça se renouvelle et on arrive toujours à se surprendre en fait. De région parisienne, de banlieue parisienne, et c'est là que ça s'est construit avec des petites salles de concert, des petits studios, des artistes, des ingé-sons qui bidouillaient à côté de leur projet principal, et puis ça a grossi tranquillement. Je suis arrivé en Creuse en 2024 suite à des péripéties et puis à un lieu à faire vivre ici en fait. C'est une maison familiale qui a été rénovée avant 2019 et suite à problèmes de maladie et problèmes de décès, cette maison n'a pas pu être habitée par les gens qui avaient prévu. Donc la question c'était soit de vendre, soit de venir ici pour faire vivre, faire un jardin et puis éviter la fin de cette histoire en fait. Sur 25 ans, il y a plein de gens qui sont passés dans la structure qui est une structure libre, associative on va dire, qui a été formelle à un moment et qui est plutôt informelle maintenant. C'est-à-dire que les banques nous ont dégagés quand ils ont vu qu'on générait pas grand-chose. Et puis le but c'était pas non plus d'avoir une compta avec une trésorerie, ça a jamais été ça. C'est pour ça que là on a arrêté le pressage de disques, puisque les prix ont énormément augmenté depuis le Covid et qu'on n'a plus les moyens de faire des pressages. Donc on fait de la gravure avec des partenaires qui ont des studios et qui sont spécialisés dans cette musique-là et qui nous font des gravures à l'unité, à la demande. Donc, on fait de la petite série de 40 maximum et puis on demande des séries de 10 quand on voit que y a de la demande. On dit à l'avance combien on va en faire. Parce que celui qui veut acheter un disque aujourd'hui et qui veut le jouer, c'est un petit contrat entre lui et nous, c'est que ça va pas sortir à 1000 copies. Donc sa copie, on lui accorde une valeur en fait. Sinon, il y a tout le digital qui va très bien, hein. Digital radio, digital pour les DJ, c'est très bien aussi. Mais voilà, on reste quand même attaché à l'objet, à cette gravure qui nous coûte autant qu'on la vend dans la plupart des cas en fait. Donc c'est pas du tout un modèle économique viable. S'enrichir avec la musique en 2026, c'est quand même devenu un peu compliqué. Et surtout quand t'es indé et que tu fais pas de l'IA, je pense. Après, sur les styles que nous on fait, c'est quand même plutôt basse musique. Plutôt dub ou plutôt musique expérimentale, c'est pas non plus des volumes énormes d'auditeurs. Partout dans le monde, il y a des gens qui ont envie d'explorer en fait des rythmes et puis des cultures musicales différentes et avec qui on peut échanger parce que ils n'ont pas une vision traditionnaliste, on va dire, de leur musique. Même s'il y a des racines, même si il y a beaucoup de liens avec des gens qui font une musique plus ancienne. Je pense à Pinchado qui a fait un morceau, lui il est en Argentine, il est à Buenos Aires, il a fait un morceau avec une chanteuse et sur d'autres disques il a fait des remixes pour un groupe qui s'appelle Los Mirlos qui fête leurs 40 ans de scène et qui sont une énorme référence culturelle au Pérou parce que ils font une cumbia amazonienne très particulière. Et donc il y a des échanges très forts en fait entre ces groupes très connus et puis des DJ à qui on va donner carte blanche à un moment donné et puis qui vont utiliser ce matériel-là pour faire autre chose. Donc c'est ça qui nous intéresse en fait. Après il y a des sorties qui sont des compiles où c'est vraiment récréatif on va dire puisque la période Covid elle a été quand même bien compliquée et tout le monde s'est mis sur ses machines à essayer de sortir des trucs et en général ce qui est sorti c'est quand même assez énervé. Il y a des morceaux de foule qui hurlent sur le Bolsonaro. Il y a des morceaux avec des extraits qui critiquent le traitement des personnes âgées à cette période-là. Enfin, chacun s'exprime aussi à un moment comme il a envie. Et nous, on est là aussi pour ça. L'idée, c'est d'arriver à dépasser certaines visions de la production musicale, faire des rencontres en fait. Et pour ça, c'est déjà politique. On n'est pas dans quelque chose de formaté avec un public ciblé, c'est-à-dire qu'on a envie de partager et que les gens aillent un peu dans la curiosité aussi. Donc si la curiosité c'est politique, oui. Il y a des artistes du label qui sont ici, en particulier Rip in Dub, qui va sortir bientôt. Le 1er juin, on sort un 4 titres. Donc lui, on peut dire qu'il est sur le territoire. Et puis sur le Electro Dub 24, on a trouvé Kez Le Zec qui est de la région, que... On se connaissait sur des projets plus anciens avant. Et puis, il y a aussi Kinoshita, qui n'est pas plus loin que la maison d'en face. et qui fait des morceaux et qui a sorti le premier morceau. Et c'est vraiment une rencontre creusoise du coup. Donc entre les anciennes connaissances et les personnes du même réseau et les personnes qui sont vraiment des découvertes, ça fait quand même trois piliers pour danser avec la Creuse. Puis on a aussi d'autres structures amies, associatives, qui sont en Haute-Vienne, il y en a dans l'Indre. Il y a dans un rayon de 150 km, on doit bien avoir 4 ou 5 structures avec qui on est partenaire en fait. Donc ça existe. Tous les labels travaillent à distance avec les studios, avec les artistes. Donc on n'a pas besoin de s'échanger manuellement une clé USB en 2026. On peut s'envoyer des fichiers. Et puis à partir de là, tout est possible. Quand on travaille avec l'Argentine, qu'on travaille avec la Bulgarie ou avec la Belgique, ça change peu de choses qu'on soit dans une agglomération ou qu'on soit en milieu rural, puisque le travail c'est le même de toute façon. Et puis après, sur les émissions de radio, on récupère les sets des artistes et puis on les diffuse par la suite. Ça fonctionne plutôt bien, ça. Après, c'est une question d'énergie entre des personnes. Donc avant, on s'échangeait des fichiers sur CD-ROM. On se retrouvait pour se les passer et puis discuter ensemble. Ça a commencé de toute façon. La logique, c'est une petite logique artisanale entre personnes qui ont des énergies proches. Qui peuvent se rencontrer physiquement. Il y a quand même une culture squat, il y a quand même une culture associative militante, on peut le dire, puisque il y a des gens qu'on a rencontrés dans des manifestations pour le droit au logement, par exemple. Il y a plein de profils différents, donc on a quand même généralement une logique similaire. Et puis des messages aussi à faire passer dans la musique, quoi. Les musiciens avec qui on travaille en Amérique latine, ils travaillent pour d'autres labels qui sortent des trucs super intéressants, des visions complètement différentes de nos approches ici. Et du coup, ça donne une énergie nouvelle, en fait. Ça, c'est le cœur de la vie du label et des futures productions. Puisque une rencontre emmène une autre rencontre. Et là, il y a un autre extrait de la sélection. Qui est un artiste du Costa Rica qui a été remixé du coup par les copains d'Argentine. Et c'est un morceau vraiment cumbia traditionnel. Ça fonctionne très bien. Il a sorti des albums par ailleurs et puis ça fait des connexions avec plein d'autres structures en fait. On reçoit des démos régulièrement. Quand on reçoit plusieurs démos qui vont dans le même sens, et ben en général ça se finit avec une compilation. Si on pense que ça peut donner un ensemble cohérent. Après, des fois, il y a juste deux morceaux qui nous tapent dans l'oreille et qui vont sortir. Il y a des artistes qui sont vraiment très forts dans ce truc-là. Ce qu'on préfère, c'est quand même le morceau court. C'est toujours une discussion avec les artistes, mais on aime bien les 2 minutes 30, 3 minutes 30 maximum pour que ça donne quelque chose et que ça soit quand même plutôt dans l'esprit danse pour Electro Dub et plutôt après pour Marasme ça va être un peu tout, ça peut être des trucs super calmes, ça peut être des trucs plus énervés. Là on n'a pas de format en fait, mais on aime quand même bien quand ça peut rentrer dans un set pour faire danser les gens et c'est encore plus marrant pour nous quand on peut mélanger ça avec des standards de différents styles. Là, ça nous parle bien, ça.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Yann de Canal B à Rennes et Natacha à Esperanza pour Radio Balade vous présentaient les deux albums mis à l'honneur cette semaine sur votre radio Ferrarock. Sketches of Loss par Futuro Pelo, sorti le 22 mai sur Exact Records, et bande originale du film imaginaire d'Aurélie Muller de Vilain Tigre, disponible depuis le 6 mai via Cléo Records. Nous clôturions cette émission avec Guillaume du label Marasme, basé en Creuse et dont les sorties sont à retrouver sur www.marasmelabel.bandcamp.com. Pour écouter cette émission et en savoir plus sur les albums soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.